Donc, juste introduire, et puis après on fera la lecture du texte. Donc je rappelle que on est dans ce 17e chapitre. On y entre, en tout cas, avec les 10 premiers versets à la clé, c'est-à-dire la période où Paul et Silas et toute la bande vont arriver à Thessalonique. Saloniki, aujourd'hui en Grèce. Un très beau coin, d'ailleurs. Alors, juste une petite intro. Vous vous souvenez que la péricope précédente, c'était le fameux scandale des maîtres de la petite esclave et qui a abouti finalement à la maltraitance, l'arrestation et la mise en prison de Paul et Silas. Et suite à ça, ils sont donc contraints, après avoir été libérés, contraints de quitter la ville de Philippe, avec l'église naissante qu'ils y avaient établie, en tout cas contraints temporairement, puisqu'ils vont y revenir plus tard. Et là, ils vont reprendre la Via Egnatia, donc la voie romaine, celle qui conduit vers l'Italie, jusqu'à Thessalonique, justement, qui est la capitale de la Macédoine. Pas la capitale du district, mais la capitale de toute la Macédoine. Voilà. Donc peut-être qu'on peut lire le texte avant d'attaquer le côté géographique de la première question. Alors, je ne sais pas si c'est notre lectrice attitrée ou s'il y en a qui lui coupe le sifflet avant qu'elle ait commencé. Donc on fait donc 1 à 10a, première partie du verset 10.
Passant par Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Comme il en avait l'habitude, Paul alla les trouver et 3 sabbats de suite, il leur adressa la parole. À partir des Écritures, il expliquait et établissait que le Messie devait souffrir, ressusciter des morts et, disait-il, le Messie, c'est ce Jésus que je vous annonce. Certains des Juifs se laissèrent convaincre et furent gagnés par Paul et Silas, ainsi qu'une multitude de Grecs adorateurs de Dieu et bon nombre de femmes de la haute société. Mais les Juifs, furieux, recrutèrent des vauriens qui traînaient les rues, ameutèrent la foule et semèrent le désordre dans la ville. Ils se portèrent alors sur la maison de Jason, à la recherche de Paul et de Silas qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée du peuple. Ne les trouvant pas, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les polytarques. Ces gens qui ont soulevé le monde entier, criait-il, sont maintenant ici, et Jason les a accueillis. Tous ces individus agissent à l'encontre des édits de l'empereur. Ils prétendent qu'il y a un autre roi, Jésus. Ces cris impressionnèrent la foule et les polytarques, qui exigèrent alors une caution de Jason et des autres avant de les relâcher.
Et le 10A, la première partie.
Les frères firent aussitôt partir de nuit Paul et Silas pour Béré.
Voilà. Merci beaucoup. Alors voilà, bon, je vous avais indiqué peut-être qu'il fallait, pour bien comprendre le début du texte, faire un peu de géographie. Donc j'avais posé une question liée au parcours, aux distances, etc. Je ne sais pas si vous y avez un petit peu regardé. Parce que je dis ça parce qu'en fait, quand on lit le texte, on a un peu l'impression que tout ça se passe en 30 secondes. Hein, on part, on va par Amphipolis, à Apollonie, puis on est directement à Thessalonique. Alors que la réalité est quand même un petit peu différente.
Plus de 100
kilomètres.
Oui, en tout cas plus d'une centaine. Alors, un petit mot sur les villes en question. Amphipolis, polis en grec c'est ville. Amphipolis, c'est une ville située à l'embouchure d'un fleuve, le Strymon ou la Strouma, ça dépend, qui prend sa source en Bulgarie, donc assez loin de là. Et c'est le chef-lieu de cette province de Macédoine. Et cette ville-là se trouve déjà à 48 km et quelques de Philippes, c'est-à-dire un à deux jours de marche en marchant bien. Pour vous donner une idée. Donc, quand on lit une version, on a un peu l'impression, pim, 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 hop, on est à Thessalonique. Hein. Et c'est un peu au sud-ouest de la ville de Philippes. La deuxième ville qui est mentionnée, Apollonie, c'est une ville nettement moins importante qu'Amphipolis et Philippes. Hein. C'est une petite ville qui se trouve à peu près à 44 km, c'est de nouveau un ou deux jours de marche, au sud-ouest d'Amphipolis. Donc, vous voyez, calculez déjà, on est déjà à plus de 80 km en quelques jours. Et enfin, Thessalonique. Alors, un mot sur Thessalonique, parce que c'est quand même important. J'avais dit que c'était la capitale de la province de Macédoine. C'est surtout une cité libre. Alors, vous savez qu'il y a des statuts différents. Il y a des villes qui sont sous domination romaine, point à la ligne. Il y a des villes qui sont un peu comme celles qu'on avait vues à Philippes, des villes qui ont reçu les attributs de Rome, c'est-à-dire qui se comportent comme si on était à Rome, qui est dirigé comme si on était à Rome. Et puis, il y a des villes comme Thessalonique qui sont des cités libres, c'est-à-dire des espèces de villes-républiques, si vous voulez, ou villes-États, et qui l'est déjà depuis 42 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire sous domination romaine, mais avec ce statut de cité libre. Elle se trouve, elle, quand même, à 69 et demi à l'ouest d'Apollonie. Donc vous ajoutez aux deux premières distances celle-là, c'est-à-dire de nouveau à plus de deux jours de marche. Hein. Et elle est nichée dans un espèce de golfe, si vous voulez, bâti en amphithéâtre à flanc de colline, avec la mer comme horizon, en tout cas le golfe là qui fait déjà 5 km de large au niveau de Thessalonique, et puis qui s'enfonce dans la mer Égée beaucoup plus loin. C'est une ville importante, une ville au commerce florissant, et c'est surtout la résidence du gouverneur provincial. Donc celui qui dirige toute la province habite à Thessalonique. Du coup, si on dit que c'est une cité libre, ça veut dire qu'elle s'auto-gouverne. Elle n'est pas sous la gestion d'un Romain. Elle s'autogère, mais elle rend compte, elle dépend directement de l'empereur. Donc elles sont en lien direct avec Rome, si vous voulez. Voilà. Voilà, finissons-en avec la parenthèse sur Thessalonique et la géographie. Mais quand même, grâce à tous ces petits détails géographiques, on comprend que ce voyage a quand même pu durer entre 4 à 6 jours, disons une semaine. Et donc ça ne va pas si vite que ça. Et d'après le grec, en tout cas, on comprend bien qu'ils ne se sont pas vraiment arrêtés à Amphipolis et Apollonie, puisqu'ils traversent, c'est ce que le grec dit. Alors ils ont peut-être dormi là une nuit, si c'était le cas. Ça dépend où ils en étaient arrivés dans leur marche, mais en tout cas, ils ne sont pas restés, ils n'y ont rien fait. Ils n'ont pas entamé quelque chose au niveau missionnaire. Et l'objectif était donc bien Thessalonique. C'est ça que le grec veut nous faire comprendre. On n'avait pas l'intention de s'arrêter dans chaque bled. Donc on vise une étape, et l'étape, c'est de se rendre à Thessalonique, parce que c'est quand même la capitale, la ville la plus importante de la Macédoine, mais aussi parce qu'il y a une synagogue, et que ça, ils le savent. À Philippe, il n'y en avait pas. Ils ont dû chercher les Juifs. Là, ils vont les trouver directement, puisqu'il y a quand même une certaine communauté juive sur place. Je ne sais pas si vous avez fait attention, ça dépend de la version que vous avez peut-être, mais dans la Tob, on a « Ils arrivèrent à Thessalonique ». Du coup, on peut quand même s'interroger sur « C'est qui ils ?» puisqu'on n'en sait pas grand-chose en réalité. Ben, il, apparemment, si on s'en tient à la logique du texte, ce serait Paul, Silas et Timothée. Puisqu'on sait, nous, que Luc, apparemment, serait resté à Philippe. Mais on le sait surtout parce qu'au verset 14, on le dit, donc je vais quand même le lire parce que ça, on l'a pas lu. « Sans plus tarder, dit le texte, les frères firent alors partir Paul jusqu'à la mer, tandis que Silas et Timothée restaient là, à Thessalonique. » Donc évidemment, quand on n'avait pas la suite du texte, nous, à lire ou à préparer, on est en droit de s'interroger sur c'est qui « il » au pluriel dans le texte.
Et par l'épître aux Thessaloniciens, on sait qu'à un moment donné, Paul a envoyé...
Exactement. Il faudrait presque pouvoir lire cette section des Actes avec 1 Thessalonicien 2, voire 3, pour corroborer les informations et voir que, au fond, Luc est très, très juste par rapport à ce que Thessaloniciens raconte. Une petite parenthèse sur les deux lettres aux Thessaloniciens. Ce sont les plus anciennes lettres de Paul. C'est-à-dire, c'est les premières lettres qu'il a écrites dans son ministère. Donc, avant Thessalonique, il n'avait pas écrit de lettres encore. Et on peut se poser la question, pourquoi Thessalonique ? Justement, parce qu'à Thessalonique, il n'a pas pu finir sa mission. Donc, il a commencé par leur écrire depuis Athènes, pour leur dire, écoutez, désolé, on n'a pas pu aller au bout de ce que j'avais à vous enseigner. Et donc, les deux lettres aux Thessaloniciens sont un enseignement, une sorte de continuum, si vous voulez, de ce qu'il ne pouvait plus faire physiquement, en tout cas localement. Donc il a décentralisé son enseignement, la première décentralisation de l'enseignement, aux Thessaloniciens, qu'il aime bien par-dessus le marché.
Il était très inquiet de l'avenir de Thessalonique, et il a envoyé de la persécution. Timothée pour...
Exactement. Ouais. Comme il sentait que c'était quand même mal barré, que les Juifs lâchaient pas le morceau, en fait, et que la persécution était bien établie, il s'est quand même beaucoup enquis de Thessalonique, et faire en sorte qu'il envoyait quand même l'un ou l'autre pour enseigner à Thessalonique malgré tout, quoi. Mais lui était évidemment plutôt persona non grata, donc c'était pas de sitôt qu'il pouvait y retourner. Voilà. Et donc, on apprend au verset 2 qu'il entreprend quelque chose. Et que fait-il ? Voilà. Donc, comme dit très bien la top, comme il en avait l'habitude. Hein ? Alors, ça paraît logique comme ça, comme il en avait l'habitude. Mais en même temps, pourquoi cette habitude ? On sait qu'on en a déjà un petit peu parlé il y a très longtemps, au tout début de son ministère, dans son premier voyage. Mais en fait, il y a une raison tout à fait logique.
Il s'adresse d'abord aux Juifs.
Alors oui, on sait qu'il s'adresse, ça c'est vraiment ce qui s'était fixé. Mais la raison est très simple, en fait, Paul se rend à la synagogue, et comme les apôtres de Jérusalem, il est convaincu que la voie messianique est l'accomplissement du judaïsme. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle aussi bien Jérusalem que lui, en tant que mission parmi les païens, s'adresse d'abord aux Juifs, convaincus qu'ils sont, que la voie messianique est réellement l'accomplissement du judaïsme. Et donc c'est aux Juifs d'abord qu'il faut prêcher par conséquent, et puis, corrélativement, si vous voulez, aussi aux païens qui sont à la synagogue, puisqu'il y a des craignants Dieu dans toute synagogue, finalement, de l'Empire, et puis, in fine, aux païens à l'extérieur, puisque les craignants Dieu ramènent les troupes païennes, autour d'eux, ils ont de la famille, des amis, voilà, mais ça fait tache d'huile. Voilà, donc comme à son habitude, il commence par cela, parce que pour lui, la voie messianique n'est pas une nouvelle religion. Elle est la religion, la même que celle du judaïsme. Bon, ça, on l'avait vu au tout début, en tout cas, du livre des Actes, et puis après, au début du ministère de Paul. Et il semble donc que son enseignement à Thessalonique, qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est dans le texte.
Il s'adresse aux Juifs pour prouver.
Oui, ouais. Mais combien de fois ?
Trois semaines de suite, trois Shabbats de suite.
Mm-hmm. Ça veut dire qu'il rencontre un franc succès. Jusque-là, tout le monde est à l'écoute. Voilà, ça rapporte quand même un grand succès, puisqu'il retourne et qu'il lui enseigne trois fois de suite. Ça veut dire, si vraiment, dès la première fois, on avait senti que Paul, c'était un arnaqueur, un chipoteur, on l'aurait viré, puis on lui aurait dit surtout ne reviens pas à la synagogue. Mais là, il est donc peut-être pas invité, mais accepté comme enseignant. On le laisse parler d'autorité, comme il sait le faire, Et on nous explique comment il s'y prend. Alors, à partir des Écritures, alors, nous devons nous méfier. Quand on entend le mot Écriture, on entend toute la Bible que nous connaissons. Bah oui, évidemment, là, il s'agit de la Bible juive, si vous voulez, donc de ce testament qui est le leur, et donc l'Ancien Testament pour nous, si vous voulez. Donc, à partir des Écritures, à partir des textes des Écritures, il fait quoi ? C'est quoi le but qu'il suit en commentant les Écritures ? Ou plutôt, c'est quoi son message ou ses arguments ?
Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et que le Jésus qu'il annonce, c'est le Christ.
Voilà.
Ça, c'est très important.
C'est effectivement le but poursuivi au travers de sa lecture des Écritures. Peut-être il faut bien expliquer que dans le judaïsme, le Messie n'était pas compris comme un Messie souffrant. Donc c'est ça la nouveauté de la voie messianique, c'est d'annoncer que le Messie qu'on attendait, c'est pas le roi David bis, avec ses armes de guerre, qui va foutre les Romains dehors, etc., etc. Mais c'est un Messie tout à fait spécifique. Et ça, on peut le voir au travers de certains prophètes. Pas tous, mais en particulier Ésaïe, les différentes parties d'Ésaïe, nous montrent un Messie non pas triomphant, mais un Messie plutôt serviteur, souffrant, voire, dans certains prophètes, anéanti, mis à mort, d'une certaine manière. Bon, donc lui, c'est là-dessus qu'il insiste. Et c'est sans doute là-dessus qu'un certain nombre de Juifs n'ont pas voulu embrayer, parce que pour eux, ce n'était pas acceptable.
Mais non, je ne te suis pas.
D'accord.
Parce que, oui, tu dis que dans Isaïe, d'accord, hein, c'est le Messie serviteur et souffrant. Mais les Juifs connaissent Isaïe. Pourquoi ils ne...
connaissent, mais manifestement, en tout cas, c'est courant dans le judaïsme de refuser l'idée que le Messie ne puisse pas être triomphant. Or, pour eux, un Messie triomphant, c'est un Messie qu'on ne met pas à mort, par conséquent.
Déjà à l'époque...
Alors, il faut aussi dire que un grand courant du judaïsme a toujours dit que le récit du serviteur souffrant, c'est Israël, le serviteur souffrant. C'est pas le Messie. Et c'est ça qui fait qu'il y a un gros hiatus dans la compréhension des textes. C'est la raison pour laquelle Paul insiste sur un Messie physique, pas simplement une interprétation spirituelle du contenu d'Ésaïe, disant mais finalement le Messie souffrant, c'est nous Israël, c'est nous parmi les nations, hein, persécutés, pas tolérés, volonté d'anéantissement, enfin tout ce qu'on sait depuis le début. Et ils n'ont peut-être pas tout à fait tort en faisant cette lecture. Mais là où ils se trompent, c'est que leur Bible, l'Ancien Testament, leur dit bien qu'un Messie va venir. Et ce n'est pas juste Israël. Donc Paul s'empare de cette double réalité, si vous voulez, des prophètes, pour dire, mais si, le Messie physique devait venir, et je vais vous prouver par les Écritures que non seulement il devait venir, mais qu'il devait venir de manière douloureuse et qu'il finirait sa vie anéanti par nous tous, païens et juifs réunis. Hein. Voilà. Et ça, c'est effectivement la parole un peu scandaleuse de l'enseignement de Paul, qui va faire qu'une partie des Juifs, je dirais même d'après le texte, une bonne partie des Juifs de Thessalonique, ne vont pas accepter son message. Donc après trois Shabbats, quelque chose va se réveiller. D'accord ? Mais peut-être qu'on doit attendre quelques secondes. Alors, comment se déroule cet enseignement sur trois Shabbats ? Eh bien, on sait que la méthode de Paul est très simple. C'est enseigner de manière interactive. Donc, en général, vous voyez d'ailleurs dans le verbe, je ne sais pas si c'est le cas en français, mais dans le grec, le verbe utilisé, c'est « il discuta ». C'est-à-dire, il entretient un dialogue rabbinique avec les assistants, les participants. Il pose des questions. « Avez-vous lu Ésaïe ? Comment vous comprenez Daniel ? Et moi, je pense que. Et vous, que pensez-vous ? » Et petit à petit, il construit sa défense d'un Jésus Messie souffrant et Jésus mort et ressuscité par conséquent. Donc, méthode interactive, ils discutent à partir des Écritures pour prouver que le Jésus de Nazareth est le Messie et que donc, eux, les messianiques, suivent cette interprétation et cette voie-là. Et puis, deuxièmement, il le fait principalement au travers des prophètes. C'est ce que le texte nous dit, expliquant. Alors, c'est marrant parce que le verbe en grec, c'est « ouvrant », ouvrant le sens, vous voyez. Ça montre bien que pour Paul, l'idée, c'est que on ne sait pas lire les prophètes et les comprendre comme ça, parce que tout est à interpréter. Et donc, comprendre les prophètes, c'est ouvrir des vérités qu'on n'a jamais réellement perçues. Bon, une idée, hein. Donc, il ouvre le sens des prophéties et il démontre, il établit, c'est ce que dit le verbe grec aussi, il établit leur accomplissement. Tout ce que les prophètes ont dit s'est accompli dans les dernières décennies, les 30 dernières années. Eh bien, on a vu le Messie venir, on l'a vu souffrir, on l'a vu mourir, on l'a vu ressusciter, on l'a vu envoyer l'Esprit-Saint, on l'a vu construire le nouveau judaïsme, si vous voulez, la voie messianique. Alors, certains acceptent ce que Paul raconte et d'autres non. Et donc, surtout quand il prêche que le Messie devait nécessairement souffrir, mourir, ressusciter des morts, et qu'il s'agit du fameux Jésus de Nazareth. Voilà, ça c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase, le côté peut-être un peu inacceptable. Et vous remarquerez bien qu'au verset 4, ça commence comment le verset 4 ?
Quelques-uns
seulement. Vous voyez, sur une grande communauté, eh bien, il n'a pas... Alors, au début, on a l'impression d'un franc succès en 3 Shabbats d'enseignement. OK, super. Et puis, la réalité, c'est qu'en fait, seuls quelques Juifs, à une poignée, on ne sait pas combien, évidemment, se laissèrent convaincre. Le texte dit même « furent gagnés hein, », quelque part, par l'enseignement de Paul et Silas. Par contre, on apprend quoi ?
Un grand nombre.
Oui. Le mot est assez fort en grec aussi.
Une grande foule
de Grecs, mais de Grecs prosélytes, ou craignant Dieu, en tout cas, à défaut d'être prosélytes, ceux qui allaient à la synagogue, en tout cas parmi les païens, se tournent alors vers la voie messianique. Ils y trouvent leur compte, ils y trouvent quelque chose qu'ils n'avaient pas encore trouvé dans le judaïsme traditionnel. Et à cela s'ajoute un bon nombre, dit le texte, hein, de beaucoup. Femmes de la haute société. N'oublions pas qu'on est dans la capitale de la Macédonie. Donc il y a un certain nombre de fonctionnaires, d'hommes influents, de politiciens, de romains, etc. Et donc une grande partie de ces femmes se tournent vers... Voilà. Alors, on y revient dans un moment.
J'ai trouvé intéressant parce que nous, héritiers du judéo-christianisme, nous on dit Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est une seule personne pour nous. Mm-hmm. Mais lui, ce qu'il dit, il enseigne que le Christ devait souffrir, et Christ, ça veut dire le oint, le Messie, l'élu. Messie, oui. Donc pour les Juifs, Christ, c'est automatiquement le Messie. Et il établit...
Christ, c'est du grec, en fait. Ouais. Hein. Tandis que s'il était à la synagogue, c'est Machiar qu'il a dû prononcer à la place de Christos. Ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est un détail, c'est la même chose, effectivement.
Et alors, il fait le lien entre Jésus et Christ, qui est la même personne. Mais pour les Juifs, ils doivent apprendre que ce Messie, c'était Jésus. Ouais. Et pour nous, on le lit en une fois, une seule personne. Mais ici, il parle de deux personnes et puis il les rassemble en disant « mais ça n'en est qu'une, finalement ». C'est intéressant, hein. Réfléchis.
Donc c'est bien ça, ce que je disais tout à l'heure. L'accent mis sur un Jésus physique historique pose problème. C'est là que tout bascule, en fait. Une poignée de Juifs vont suivre la voie messianique, les autres vont camper sur leur position, et pas seulement camper, on verra tout à l'heure. Donc quelques-uns sont persuadés. Alors c'est intéressant parce que le verbe « se joignir » en grec, si on traduit très littéralement, ça veut dire « devinrent le lot ». Un certain nombre de Grecs Eh oui, quelques juifs, pardon, pas des grecs, quelques-uns des juifs, si vous voulez, sont devenus le lot de Paul et Silas. Mmh. Voilà, c'est ce qu'ils ont gagné. L'auto du jour. Par contre, on l'a vu, de nombreux Grecs, surtout prosélytes, adorateurs du Dieu d'Israël, se tournent vers la voie messianique. Et on sait, par 1 Thessaloniciens, au chapitre 1, verset 9, qu'un certain nombre de païens se convertirent aussi, puisqu'ils laissent tomber leur faux Dieu, dit le texte. Donc, on n'a pas que des Grecs adorateurs du Dieu d'Israël. Mais bon, Luc fait l'impasse là-dessus, mais la lettre aux Thessaloniciens rappelle que c'est ce qui s'est passé. Pendant tous ces enseignements à Thessalonique, un certain nombre de païens se sont convertis en abandonnant leur faux Dieu. Et Dieu sait si à Thessalonique, il y avait des religions. Il n'y avait pas que le judaïsme, il y avait toute une série de religions, voire même des religions venues d'Égypte. On adorait des dieux égyptiens. Bref, enfin... Luc souligne, à la fin de son énumération, un bon nombre de femmes de la haute société qui ont aussi rejoint le courant, le groupe des messianiques. C'était peut-être des femmes prosélytes, elles aussi. Cet accent mis sur les femmes, vous le voyez, devient une habitude chez Luc. Alors, je pense à Lydie qu'on vient de voir dans Acte 16, mais qui mentionne en tout cas des femmes notables... Dans son évangile, par exemple, Luc souligne qu'un certain nombre de femmes notables soutenaient activement Jésus, dans Luc 8, par exemple. Alors, les femmes macédoniennes ont ceci de particulier, c'est qu'elles avaient une certaine réputation. Les femmes macédoniennes étaient réputées pour leur influence dans la société. Donc, elles avaient un peu pignon sur rue. Elles faisaient un peu de la politique, si vous voulez. Et lorsqu'elles devenaient membres alors d'une synagogue ou d'une église... Ces mêmes femmes de la haute société bénéficiaient d'un statut encore plus élevé qu'en société. Donc elles étaient déjà assez libres en société, elles étaient influentes en société, mais dans la société, on continue à discriminer leur féminité. Donc elles n'étaient que des femmes, vous voyez. Tandis que dans l'Église, en particulier, voire à la synagogue, elles étaient acceptées parce qu'elles adorent le même Dieu. Hein, voilà, et que là, il n'y a pas cette différence. Et cette réalité va faciliter, je pense, la conversion des femmes de la haute société. Et ce n'est pas le seul texte, d'ailleurs, qui nous en parle. Bien plus que chez les hommes. Les hommes n'avaient pas à défendre leur genre, si vous voulez. Donc, ils étaient moins attirés par une religion qui les libérerait de quoi ? Ou qui enlèverait quelle discrimination ? Tandis que les femmes avaient, dans ces conversions aussi, une certaine liberté acquise... dans le christianisme naissant. Et on sait que, contrairement à tout ce qu'on raconte sur Paul, Paul a été celui qui a le plus collaboré avec des femmes. Donc c'est quand même assez rigolo, parfois, de ce qu'on peut dire sur Paul. Hein. Mais bon, voilà. Alors, tout comme au temps de Jésus, en tout cas, le rôle de ces femmes a été déterminant pour le succès de l'Évangile. Alors que ce soit parce qu'on soutient matériellement des missionnaires, ou que ce soit parce qu'on est soi-même acteur, comme Lydie, par exemple... Et elles vont avoir une influence particulière dans l'Empire, une influence sociale, politique et religieuse, un soutien total pour la nouvelle voie, la voie messianique, et sans doute aussi une défense, par conséquent, un freinage de la persécution, puisqu'elles sont les femmes de gens qui sont au pouvoir, etc. Alors, à noter peut-être une chose, parmi les convertis de Thessalonique... Bon, ça, il faut avoir lu d'autres textes pour le savoir, mais c'est intéressant de le retenir. Il y a de futurs collaborateurs de l'apôtre, puisqu'on apprend, au chapitre 20, par exemple, au verset 4, ou dans Colossiens 4, verset 10, que deux hommes sortent du lot, et ils sont originaires de Thessalonique. Ils vont devenir les collaborateurs de Paul, Aristarque et Secundus, qui était sans doute un Romain. Manifestement avec un nom pareil, le second, hein, Secundus. Alors, on sait qu'une communauté messianique a été établie à Thessalonique. Mais quand on lit notre texte, on a un peu l'impression qu'après 3 semaines, pif, pouf, Paul est parti. Puis finalement, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et pour ça, il faut aussi relire un peu Thessalonicien. Alors, quel est mon argument ? Parce qu'il faut quand même le prouver. Donc, je pense que, contrairement à ce qu'on aurait là sous les yeux, Paul et Silas sont restés beaucoup plus longtemps à Thessalonique que nous ne le devinons en lisant le texte, puisque nous, on a un peu l'impression qu'après, tout de suite, c'est l'émeute, et pling-plong, on fait ses valises et on fout le camp. Et on se demande alors comment cette communauté a pu être établie en si peu de temps, en 3-4 semaines. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça paraît quand même un peu difficile à croire, même si on peut imaginer que Paul a laissé ses pions, etc. Pourquoi pas ? Mais quand on lit Philippiens, la lettre aux Philippiens, et je pense qu'on pourrait le lire d'ailleurs, les Philippiens au chapitre 4, dans les versets 10 à 16, on apprend quelque chose sur ce qui s'est passé.
Donc Philippiens.
Philippiens 4, 4e chapitre, les versets 10 à 16, si quelqu'un veut les lire pour tout le monde.
J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins.
Voilà. Donc, rappelez-vous, on a fait de la géographie tout à l'heure. Philippe n'est pas juste à côté. On aurait pu se dire, en 3 semaines, oui, il a reçu 2 fois du pognon. Bon, il n'y avait pas Bipost et compagnie, mais ça serait plausible si c'était à 5 km de là. Mais ils sont à plus de 140 km, 150 km de là. Donc comment peut-on expliquer l'aide, le soutien des Philippiens, eux-mêmes ayant pâti du départ précipité de Paul, soutien matériel et financier, et pas simplement « on t'encourage, on prie pour toi », un vrai soutien pendant qu'il est à Thessalonique. Et la raison est simple, vous savez très bien que Paul travaillait de ses propres mains. Donc s'il reçoit de l'argent pour Thessalonique, c'est parce que ça urgeait de l'aider à ne faire que ça, que prêcher, qu'enseigner, etc. Donc il y a une mission durable, on peut imaginer peut-être de 2-3 mois, passer à Thessalonique, ce qui nous permet de mieux comprendre que l'Église à Thessalonique va tenir le coup. Parce qu'imaginez un seul instant, ils partent au bout de 3 semaines, avec très peu de cadres, très peu de juifs du cru. Vous voyez, on nous le précise bien dans le texte. Une petite poignée de juifs ont suivi la voie messianique. Alors, comment l'Église a pu tenir? Comment elle a pu continuer? Comment elle a pu évoluer, grandir? Alors oui, il y a l'enseignement de Paul par ses courriers qui fait que l'Église a reçu un enseignement d'une certaine manière. Donc, on doit toujours faire attention quand on lit les textes. C'est pour ça que j'ai attiré votre attention là-dessus, sur le fait que dans d'autres lettres, en l'occurrence de Paul, on trouve des informations qui nous aident à comprendre ce qui s'est passé dans le temps, que l'espace-temps était beaucoup plus large qu'on ne l'imagine, en fait. Donc, cette communauté, elle est bien établie, parce qu'elle a bien été établie par Paul, qui a pris son temps et qui a été financé pour le faire, dans l'urgence. Sans doute parce qu'il y avait quand même beaucoup de convertis quelque part. Il semble donc que Paul et son équipe y soient restés un certain temps qu'on ne peut pas évaluer, avant que n'intervienne le fameux épisode des versets 5 à 10. C'est-à-dire que finalement, les Juifs, et d'ailleurs on va le comprendre dans le texte, les Juifs réagissent à quoi ? Pas aux 3 enseignements du Shabbat. À quoi pensez-vous qu'ils réagissent ? Ben oui, exactement. Parce qu'en plus, si vous voulez, les gens de la voie messianique se réclament du judaïsme. Il y aurait donc 2 judaïsmes, celui de la synagogue et puis celui des hurluberlus à côté qui disent « c'est nous les juifs ». Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quelque part, le texte va nous le dire. Qu'est-ce qui anime les Juifs ? La jalousie. C'est texto dans le... Bon, comment peut-on être jaloux de quelque chose dont on n'a pas vu les fruits ? Donc nécessairement, de nouveau, il fallait un certain temps et un certain succès dans la voie messianique pour que les Juifs se disent « ça, il faut arrêter ». Il faut arrêter ce bazar, quoi. Donc, pour revenir à mon propos, c'est le verset 5a. Les Juifs furibards. Qu'est-ce qu'ils font ? D'abord, ils recrutent des bandes de voyous. Alors, le texte en grec est très fort, puisque littéralement, on pourrait traduire « pris de jalousie ». Passionnés par leur jalousie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça que dit le grec. Hein. Pris de jalousie, un peu comme à Antioche. Hein. Rappelez-vous, Antioche de Pisidie, au chapitre 13, verset 45. Lors de ce premier voyage missionnaire, c'est la même explosion de furie. Hein. Donc, ils sont furieux, jaloux, et ils s'embarquent. D'ailleurs, Paul en parle dans Thessaloniciens. Si vous voulez relire ça, dans chapitre 2, verset 14 à 16, il parle de cet événement, de la jalousie des Juifs de Thessalonique. Et là, il s'engage dans une voie qui est loin d'être spirituelle. Parce que pour aboutir à leur fin, ils engagent, ils payent des... Je ne sais pas trop comment il faut le traduire. Des gens pas très sympathiques, quoi. Hein. Alors, on peut déjà se poser une question. Est-ce que c'est acceptable et recommandable de céder à la jalousie ? Bon, on a déjà une petite réponse à notre question. Et se laisser guider par la jalousie implique toujours qu'on se fait déborder par elle, c'est-à-dire par des comportements peu louables. Au lieu de tenter un vrai dialogue avec la voie messianique, par exemple, ici, une partie des Juifs recrute des hommes de main. En grec, des bons à rien. Et le grec rajoute même un peu plus tard, plutôt méchants, pas des gentils. Oui, pas des gentils SDF qui ont besoin d'un peu de sous-sous pour manger, mais une bande de voyous pour semer le désordre. Hein. Donc pour les aider finalement à ameuter la foule, semer le désordre en ville à propos de cette fameuse mission de Paul et Silas, et pour s'opposer à eux. C'est évidemment une drôle de manière de gérer un différend théologique, hein, on l'avouera. Cette tactique visait sans doute à ce que la foule, furibarde aussi, fasse justice elle-même, par la violence, comme ce fut déjà le cas ailleurs, hein, on le sait dans notre histoire des actes. Donc, attention de ne pas mal lire le texte, car ce ne sont pas les voyous qui sont aux commandes. Les voyous exécutent. Ils accompagnent la poignée de Juifs qui veulent rendre la ville à feu et à sang par le désordre. Donc, on doit bien garder à l'esprit que tout ce qui va suivre dans les versets suivants, les « ils » au pluriel, ce sont les Juifs et les voyous. Les Juifs et les voyous, tout le temps. Les Juifs sont bien à la manœuvre. En tout cas, la poignée qui n'accepte pas que Paul et Silas continuent leur mission. Donc on nous dit, verset 5b, ils se portèrent alors sur la maison de Jason à la recherche de Paul et Silas, hein, c'est pas pour rien qu'ils y vont, et ils voulaient traduire ces deux-là, Paul et Silas, devant l'assemblée du peuple. Il faut aussi bien comprendre une chose, comme c'est une ville, rappelez-vous, libre, une ville république, il y a 5-6 personnes qui dirigent la ville, les fameux polytarques dont on reparlera tout à l'heure, poly pour ville, arc pour autorité, ceux qui dirigent la ville, mais tout ce qui est judiciaire est jugé par le peuple, par un groupe de citoyens. Donc une justice populaire, si vous voulez, tout à fait normale et acceptable. Donc les Juifs, toujours à la manœuvre, cherchent Paul et Silas activement pour les faire juger par le groupe de citoyens, alors peut-être pas toute la ville, mais en tout cas un groupe de citoyens représentatifs, pour les juger selon des accusations qu'ils vont formuler. Et pour cela, sans doute très bien informés, ils vont directement à la maison de Jason. parce qu'ils savent qu'ils habitent là depuis qu'ils sont à Thessalonique, tout simplement. Ce fameux Jason qui les a accueillis. Alors, Jason, c'est un prénom ou un nom grec, mais ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, beaucoup de Juifs qui vivent dans la diaspora adoptent des prénoms du lieu pour être un peu incognito, faire ami-ami avec les autres et pouvoir surtout faire leur commerce et tout ce dont ils sont habiles à faire. Donc, résultat, Jason est peut-être bien un Juif. Et s'il n'est pas Juif d'origine, alors c'est sans doute un craignant Dieu, un de ces païens grecs qui aurait rejoint la voie messianique. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui les a accueillis.
Excusez-moi, oui. Par Romains 16, j'ai découvert que Jason était de la famille de Paul. C'est un parent.
Ok.
Romains 16, 21. Donc, c'est un peu logique qu'il était habité là-bas. Ça se trouve en Romains 16.
Ça m'intéresse, 16, tu vois, j'avais pas vu celui-là.
Romains 16, 17. Il dit carrément que Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez. Non, c'est pas ça. C'est Romains 16, 21. 21. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Donc, Lucius, Jason et Sosipater seraient des parents. Apollon.
Parce que c'est le même Jason. Oui, on peut continuer la recherche, mais c'est intéressant parce que je n'avais pas capté ce texte-là. Et qu'est-ce qui se passe alors? Il se pointe chez Jason et qu'est-ce qui se passe?
Ah, et n'empêche que dans la taupe. Ah si, si, on renvoie à R13.1 et puis Acte 17.5.
Dans la marge, je vois qu'il y a Romains 16, 21, effectivement.
Ce serait le même Jason. Ouais. Oui.
Apparemment, donc la taupe l'identifie. On peut peut-être faire confiance à la taupe quand même. Il identifie Jason à Jason.
Les commentaires Emmaüs disent que c'est un parent aussi.
Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous montre alors bien que l'étape thessalonique avait plusieurs buts. Ils savaient où atterrir à Thessalonique. Pas simplement la synagogue, mais aussi en famille. Ok, c'est intéressant, très intéressant. Comme quoi, voyez-vous, quand on étudie tous le texte, on trouve plus de choses que dans une tête. Et donc, je disais, on est arrivé à cette maison de Jason. Que se passe-t-il là?
Ils ne sont pas là.
Et du coup, de plus en plus furieux, qu'est-ce qu'ils font? Bah, défaut de Paul et Silas, on embarque ceux qui étaient là. C'est-à-dire Jason et puis une bande d'innocents, des frères de la communauté, qui n'y sont pour rien, finalement. On est un peu toujours dans le même déni, vous voyez, quand on est dans la jalousie, le même déni des conventions sociales, de la justice. On embarque qui on veut, violemment, et on les traîne vers les polytarques. Alors, ce qui est intéressant, mais ça, c'est juste pour le fun, ce mot polytarque ne se retrouve dans aucune littérature grecque de l'époque. Seul Luc utilise ce terme, et il se trouve que l'épigraphie, alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'épigraphie, c'est l'archéologie des inscriptions, si vous voulez, fait que dans plusieurs villes macédoniennes, on a retrouvé ce terme inscrit sur des colonnes ou sur des bornes. Donc il y avait bien des polytarques, c'est-à-dire ceux qui dirigent la ville et qui en même temps, comme ils sont l'autorité suprême de la ville, ils sont en général 5-6 par ville, c'est eux qui ont la justice dans leurs mains. Donc c'est eux qui sont les juges suprêmes, si vous voulez, de ces villes et qui doivent rendre compte de leur justice à l'empereur. Rappelez-vous le lien direct avec l'empereur. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Si on juge des gens, il faut que ce soit conforme aux droits romains. On ne s'invente pas des droits locaux pour exécuter des gens. Okay ? Donc quand on a ça en tête, on comprend un peu la place qu'ils occupent. Tout ça pour souligner le sérieux de Luc. Luc, historien, s'est documenté. Quand il annonce un terme, Il aurait pu dire les stratèges. Ben non, il dit les politarques, parce que là, c'est des politarques, c'est pas des stratèges, hein, etc. Et on se rend compte de la bonne documentation, et ça plaide plutôt pour la cohérence et la fiabilité de ce que Luc écrit, pas seulement dans l'Évangile, mais dans les Actes aussi. Et donc, au temps d'Auguste, au temps de l'empereur Auguste, les politarques sont généralement au nombre de 5-6 par ville. Ce sont les autorités, les gestionnaires de la ville et les exécutants, les magistrats, les exécutants de la justice. Et donc, c'est devant eux qu'on les traîne. Donc, on se rend compte que là, jusque-là, les Juifs furibards avec leurs voyous n'osent pas outrepasser la justice locale. Ils sont obligés d'aller vers. Ils peuvent pas les exécuter comme ça, en dehors des murs de la ville, comme ils l'ont fait ailleurs. Donc, et là, ils vont porter une accusation. Et est-ce que vous avez bien lu cette accusation ?
Ils agissent contre les édits de César.
Voilà.
C'est ce qu'il fallait dire.
Voilà, exactement. Donc, pour bien réveiller les politarques, on leur dit, écoutez, ça, c'est des ennemis de Rome. Hein. Ce qu'ils sont en train de faire là, etc. Alors, je relis quand même, ça dépend des versions, mais ces gens, vous voyez déjà un peu le mépris, ces gens qui ont soulevé le monde entier, criaient-ils, parce qu'ils gueulent, là, ils sont pas dans le soft, on crie, on hurle, sont maintenant ici. Et Jason, celui qu'on vous traîne devant vous, les a accueillis. Tous ces individus, on revit de nouveau un peu l'anonymat méprisant, agissent à l'encontre des édits de l'empereur. Ils prétendent qu'il y a un autre... Alors, seul en grec, on peut comprendre ce qu'il dit. En fait, en grec, on dit « ils ont un autre basiléa », c'est-à-dire « ils ont un autre roi, un autre empereur ». Vous avez entendu, il y aurait deux empereurs en même temps. Rome, le vrai, et puis le faux, c'est-à-dire le fameux Jésus en question, d'accord ? C'est ça que dit le texte. Alors, remarquez, tout ça se fait en vociférant, en grec en tout cas, en criant suffisamment fort. Dans quel but ? Les politarques ne sont pas sourds.
Pour la foule,
oui, j'imagine. Dans le but que toute la foule qui est réunie, rappelez-vous, la place centrale, l'agora, la place centrale de la ville, ce grand rectangle au centre de la ville, pour que toute la foule qui est là, des marchands, des clients, de ceux qui les ont suivis depuis la maison de Jason, entendent l'accusation. Et ce qu'il crie, c'est le chef d'accusation. Voilà pourquoi nous traînons ces hommes devant vous, les politarques. Et il fallait effectivement une accusation pour faire ouvrir une affaire en droit romain. Donc s'il n'y a pas d'accusation, on s'en fout. Hein, alors, soit accusation, soit délation, hein, entre nous soit dit. Et ces gens-là dont il parle, c'est qui ? Ces gens qui ont soulevé le monde, oui, exactement, c'est toute la bande des messianiques, en fait, quels qu'ils soient. Hein. On ne vise pas nécessairement Paul et Silas, mais en visant les messianiques, on les vise, effectivement. Donc ces gens-là, c'est tous ceux qui suivent bêtement ce mouvement messianique. Et de nouveau, le grec nous est précieux parce qu'il nous explique que ce chef d'accusation n'est pas neutre. Parce que le grec dit... qui ont soulevé, littéralement je traduis, ayant révolutionné dans le sens de soulèvement politique. Vous voyez ? Donc, au fond, ils leur disent carrément, ce sont des séditieux, ce sont des révolutionnaires. Cette voie messianique, ce n'est pas une religion, c'est de la politique. Et la politique, c'est de mettre un nouvel empereur à la place de l'empereur. C'est un peu ça. Donc, ce vocabulaire a trait à une sédition, une activité subversive. Donc, les politarques, tout d'un coup. Parce que là, on est en train de leur dire qu'on essaye de mettre au pouvoir un nouvel empereur. Et remarquez de nouveau, dans le texte, on dit le monde entier, la terre habitée, si vous voulez, hein, si on traduit de manière assez littérale. Donc, on dit quoi ? Que dans tout l'Empire, c'est ça la terre habitée à l'époque, c'est tout l'Empire. Tout ce qui dépend de Rome, c'est la terre habitée. Sous-entendu, dans l'Empire romain, il y a des séditieux. Et ces séditieux, ce sont ces gens-là qui veulent mettre un autre empereur. Or, c'est vrai, la voie messianique, comme on l'a vu depuis le début de la lecture des Actes, se répand rapidement. Imaginez, on est à peine à 30 ans d'histoire de la voie messianique. Elle s'est répandue, alors j'ai fait le compte pour vous, si vous voulez, la Judée, la Palestine entière, la Syrie, l'Arabie en partie, Chypre, l'Asie mineure, la Turquie actuelle, la Macédoine maintenant, et bientôt la Grèce. C'est quand même un gros morceau de l'Empire romain, l'air de rien. Donc on n'ont pas tort, les Juifs qui portent cette accusation. Ils disent une partie de vérité, c'est qu'effectivement, cette voie messianique s'est répandue comme une traînée de poudre, quasi dans tout l'Empire. Un véritable succès, quoi. Et partout où l'Évangile est prêché, ben, ça entraîne des bouleversements sociétaux et parfois même de la violence, mais pas dans le chef des messianiques, plutôt dans le chef des opposants en général. Mais ça, ils ne le disent pas. Ils laissent entendre que voilà, c'est séditieux, c'est violent, ils vont s'emparer du pouvoir. Par contre, le reste de l'accusation est franchement mensonger. Parce qu'ils utilisent une base politique, sachant bien qu'elle peut être dangereuse pour Paul et ses amis. L'idée centrale, c'est d'accuser les messianiques de vénérer un roi, Basiléa, qui ravirait la place de César. Or, les chrétiens, jusqu'à preuve du contraire, dans tous les écrits que nous avons, évangiles et actes confondus, et puis si on ajoute les lettres pastorales de Paul, les chrétiens ne donnent quasi jamais ce titre à Jésus. C'est rare qu'on trouve le mot Basiléa accolé à Jésus. Pourquoi ? Parce que les chrétiens utilisent plutôt Kurios, Seigneur, mais ils ne l'appellent pas roi. Donc, il y a une partie où il appelle Christos, si vous voulez, mais en aucun cas il ne souligne une espèce d'empire historique, physique, qui pourrait mettre en péril Rome. Et on sait que cette accusation avait déjà été utilisée, si vous vous en souvenez bien, pour nuire à Jésus. C'est exactement ce qui s'est dit dans Luc 23, verset 2, ou dans Jean 19, verset 12, au moment où Jésus est arrêté, on l'accuse de cela aussi, d'être un séditieux, de vouloir finalement renverser l'Empire, etc. Or, les accusateurs, ici, ils opèrent expressément, à mon avis, de manière tactique, une confusion entre le royaume spirituel de Jésus et un royaume temporel, tout simplement afin de prouver l'insurrection révolutionnaire des messianiques, en espérant bien que les politarques vont embrayer là-dedans. Et nous savons, bien au contraire, que tous les apôtres, ceux de Jérusalem comme Paul, n'ont jamais contesté l'autorité de César. Mais, par contre, si César se prétend Dieu, alors la seigneurie du Christ pourrait poser un petit problème. Voilà. Mais ça, c'est pas ce qu'ils disent, eux, d'accord ? Eux, ils essayent de faire passer l'idée que le fameux Basiléa dont parlent ces juifs messianiques, c'est un empereur qui va ravir l'Empire de Rome. Et alors, bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Tout ça se passe en public, dans une grande cohue, une vocifération. Et du coup, versets 8 et 9... La foule est impressionnée par ces arguments. Elle dit, oulala, ça va barder, hein ? Et on devrait peut-être s'y mettre, nous aussi, parce que finalement, nous, on est pépère dans notre ville de Thessalonique, ville-république, ville-État, liée à Rome de près. On doit être loyal à l'Empire, donc on va aussi s'y mettre un petit coup. Donc, ils impressionnent bien la foule. Et le verbe en grec, tarasso, c'est un verbe qui veut troubler, bouleverser. Donc, c'est pas bouleverser n'importe comment. C'est finalement... Ils se sentent mal avec cette accusation. Toutefois, les politarques, que font-ils ? Est-ce qu'ils se laissent berner ? Est-ce qu'ils agissent comme les stratèges ?
Ils demandent juste une caution.
Oui. Et on va voir qu'en faisant cela, ils restent dans le droit chemin et le droit romain.
Mais en même temps, pourquoi doivent-ils payer une caution alors qu'il n'y a pas de jugement ?
On va y venir. C'est une bonne question.
Oui.
En tout cas, ils réagissent, on est tous d'accord qu'ils réagissent différemment de ce qui s'est passé à Philippe. En tout cas, ils sont beaucoup plus prudents. Alors, attention, à Philippe, les stratèges, ils ne sont que deux. C'est facile de se laisser impressionner quand on est deux. Vous voyez, face à la foule, là, ils sont 5-6. Et c'est quand même eux, l'autorité de la ville. Hein. C'est eux qui ont le pouvoir, finalement. Donc, ils ne se laissent pas impressionner par les cris de la foule et tout ça. Beaucoup plus prudents, ils décident de réclamer une caution à Jason et à ses amis en lieu et place de Paul et Silas. Donc, en fait, je vais y venir dans un moment. Mais cette histoire de caution était liée à la place des fauteurs de troubles. Quand des gens sont accusés d'être fauteurs de troubles, on leur demandait de payer une amende, en réalité. Une amende assez importante, quand même. Et ça, c'est dans le droit romain. Donc, les politarques ne font rien d'illégal. Ils agissent selon le droit romain, en disant « Ah, vous les accusez d'être des séditieux, on va les mettre à l'amende. Puisqu'ils ne sont pas là, c'est les autres qui vont payer, en lieu et place, puisque c'est leur copain. » Alors, il s'agit d'une amende exigée, évidemment, en vue de quoi ? De dissuader les fauteurs de troubles, ou en tout cas de limiter leurs actions, puisqu'ils sont maintenant accusés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas être arrêtés. On paye une caution pour leur fermer le caquet, mais aussi bien, on va les poursuivre après et les mettre en justice. Ici, donc, on n'a pas de procès, on n'a pas de jugement, on n'a pas non plus de coup, et on n'a pas de prison. Et sans doute, les politarques, par cette application du droit romain, veulent voir comment cette affaire va évoluer dans les prochaines heures. Est-ce que les messianiques vont continuer à faire du foin ? Est-ce que Paul et Silas s'en foutent qu'on leur ait demandé une amende ? Ou est-ce qu'ils vont faire amende honorable ? Ils vont un peu mettre la veilleuse et puis on va pouvoir les tolérer à Thessalonique, etc. Une attitude sage, finalement, de la part des politarques, puisque la communauté messianique, elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Exactement. Donc, les politarques ont bien agi, parce qu'ils se sont, ils ont, au fond, en demandant une amende, ils sollicitent la voie messianique en leur disant « Qu'allez-vous faire maintenant ? Si vous continuez à faire votre foin, ben on va vous arrêter, on va vous passer en jugement. Si vous changez d'optique, on peut peut-être tolérer que vous restiez à Thessalonique. Peut-être même Paul et Silas. Mais en l'occurrence, les frères, dit le texte, prennent une décision à la place de Paul et Silas. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à Paul et Silas leur avis. On leur dit maintenant, les amis, il faut vous barrer si vous ne voulez pas que ça se termine mal. Et pourquoi le font-ils, d'après vous ? Donc, au fond, ils organisent une exfiltration de nuit, dit le texte. Hein ? D'accord ?
J'ai trouvé deux idées complètement opposées. D'abord, je disais, comme tout le monde, ils ont dû payer une caution. Mm-hmm. Allez, monnaie, oui. Allez ici. Et puis j'ai trouvé l'idée qu'ils n'ont pas payé d'argent, mais que la caution, c'était la garantie de la part de Jason et de ses amis de dire, ben, pour éviter que ça ne fulmine, on va demander à Paul et Silas de partir. Ils ont pris pratiquement une garantie de dire on va les encourager à partir. Alors,
moi, je n'oserais...
C'est compliqué à comprendre.
Oui, je n'oserais pas aller jusque-là, mais je reconnais que le raisonnement n'est pas faux. C'est-à-dire, quelque part, la caution, c'était peut-être un arrangement, finalement, entre Jason, les frères de la communauté et les politarques, pour dire, bah, écoutez, on veut bien... comment dire, une espèce de troc, si vous voulez, vous nous relâchez et nous, on fait en sorte que Paul et Silas disparaissent. Ce qui expliquerait alors mieux pourquoi c'est eux qui ont pris la décision d'exfiltrer les deux hommes de nuit.
Et que Paul et Silas n'ont pas contredit.
Non.
Par rapport à Philippe, où eux, ils sont restés malgré les menaces.
Exactement.
Et c'est décoiffant, hein, quand c'est difficile de...
Alors... Quelle que soit la leçon, elles peuvent être bonnes, que ce soit de l'argent comptant ou que ce soit un deal avec les politarques pour qu'on en finisse avec cette affaire et que Paul et Silas soient éjectés. En tout cas, les frères sont partie prenante là-dedans. C'est eux qui décident. Or, le texte nous dit quoi ? Que finalement, ils règlent l'affaire sans délai. dans la nuit même, ils exfiltrent Paul et Silas. Ah, vous me direz pourquoi la nuit ?
Parce que tout le monde dort.
Oui, oui, et puis parce qu'on a une foule de juifs mécontents qui, s'ils le voyaient faire en pleine journée, pourraient très bien s'en prendre à eux, retraîner la populace et leurs voyous, etc., etc. Donc par mesure de sécurité, ça va se passer de nuit, dans l'immédiateté en tout cas. Et on nous dit clairement, dans le verset que 10a qu'on a sous les yeux, qu'on les envoie à Béret. C'est-à-dire, non seulement on les exfiltre en leur disant, on leur dit pas, tiens, prenez votre baluchon, débrouillez-vous, on sait où on va les mettre. Vous voyez ? Donc, c'est plus qu'une organisation. Les frères ont décidé de les exfiltrer à Béret, pas n'importe où, pas lâchés dans la nature, etc. Pas pour qu'ils reviennent 3 jours après, en tout cas. Donc, de nuit, secrètement, et tout ça pour leur sécurité, évidemment. Par la même occasion, ce départ soudain des 2 principaux acteurs de la voie messianique, ça va protéger la communauté messianique. Donc le calcul est bon. Quelque part, ça fait retomber la pression. On n'a plus les accusés ont disparu. La communauté messianique va pouvoir souffler et rester sans être elle-même mise à l'index quelque part. Alors cette communauté messianique, pourquoi le font-ils ? Parce qu'ils se doutent bien que si Paul et Silas restent, ça ne va pas calmer la jalousie des autres. Donc ils ont tout intérêt à ce qu'ils décampent pour la paix globale. Et ça ne va pas mettre en péril l'évangile, comme on le sait. Hein. Donc après, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Béret ? Alors j'ai une petite idée. Je ne sais pas si vous avez une idée de votre côté. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu les cartes.
Bah, c'est en direction d'Athènes.
Alors déjà, c'est en direction du sud. Alors, peut-être 2 mots sur la ville. C'est une très ancienne ville, Béret, une ville importante de Thessalie. Elle est située loin de la Via Egnatia, c'est-à-dire loin du chemin le plus rapide, si vous voulez, le plus... voilà. Donc, en fait, c'est pas pour rien qu'on les fait descendre vers Béret. Alors, Béret, ça se trouve quand même à 73 km de là. Hein ? C'est pas juste à côté. Donc, de nouveau, 2 bons jours de voyage, au moins. Ça ne se trouve sur aucune grande route. C'est des petites routes qui mènent à Béret. Béret, c'est à l'ouest-sud-ouest de Thessalonique. Alors, prenez votre boussole en main, faites comme vous voulez. Ouest-sud-ouest, ils descendent un peu plus vers le sud, en fait. Et c'est une région florissante, car les terres y sont fertiles. C'est entouré de montagnes, une grande plaine traversée par une petite... Enfin, une rivière, on ne peut pas appeler ça un fleuve, hein, une rivière qui draine toute la vallée. Et on doit aussi se demander pourquoi ils vont là. Ben, peut-être parce qu'il y a des juifs aussi. Ce départ précipité, programmé par les frères, j'ai presque envie de dire, c'est du pain béni pour Paul et Silas. Ils n'ont pas dû trop réfléchir. Ils ne se sont pas interrogés, ils ne sont pas partis à l'aveuglette. Ils ont un point de chute. On leur dit, tu vas à Béret, tu vas voir mon cousin. Voilà. Mon cousin Shlomo, il va t'accueillir. Peut-être les frères avaient-ils des contacts clés à Béret, que nous ne connaissons pas, nous. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des juifs dans cette ville. Donc ils ne vont pas dans un endroit uniquement païen. Le séjour à Thessalonique s'interrompt de cette manière-là. Voilà, ils sont partis de nuit. Mais on sait, nous, que Paul va poursuivre son enseignement à Thessalonique au moyen de ses premières lettres, celles qu'il a écrites à cette communauté, donc qu'il avait terriblement à cœur. Et je vous invite d'ailleurs à lire 2 Thessaloniciens, vous rendrez compte de l'attachement qu'il a pour les Thessaloniciens, qu'il a quitté à regret, quoi.
Il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait pas de juifs dans toutes les villes.
Non. Non, non. Non, on l'a vu d'ailleurs à Philippe, qui était pourtant une grande ville. Pas de synagogue. Peut-être parce qu'elles ne sont pas toujours tolérées. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de juifs. Il faut de l'argent pour construire un lieu de prière, etc. Bon, c'est pas... Il faut des gens un peu nantis, quoi, quelque part. Hein. Il faut aussi, surtout, 10 hommes, hein, tu sais. Au moins 10 hommes pour ouvrir un lieu de prière. Donc, les femmes peuvent prier, mais elles ne peuvent pas prétendre que c'est une synagogue. Voilà, en gros. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques applications... liés à cette étude du texte, à ce que vous avez découvert?
C'est le psaume premier qui dit « Tu ne t'assiéras pas en présence d'un moqueur ». Et ça devait tourner dans leur tête, pourtant, ça. Mmh. La loi juive ne permettait pas de s'associer avec des malfrats pour mentir.
Oui, en même temps, on doit bien comprendre que pour une certaine partie des juifs, la voie messianique est une voie dangereuse. C'est-à-dire, c'est un faux judaïsme pour eux. Pour ceux qui n'acceptent pas les explications pauliniennes sur l'Ancien Testament, les prophètes, etc., qui ne reconnaissent pas dans un Messie souffrant le Jésus de Nazareth historique, bon, on peut comprendre. Et alors, le fait de vouloir défendre le bon fond, si vous voulez, du judaïsme, leur donne des ailes pour faire n'importe quoi. Pour garder le judaïsme intact, ça peut aller jusqu'à mentir, tuer, éventuellement. Heureusement, ce n'est pas une grande généralité. On ne peut pas dire que tous les juifs sont ainsi, ou l'ont été. Sinon, il n'y aurait pas eu de christianisme, déjà. Il n'y aurait pas eu de conversion non plus dans les synagogues.
Quand on parle de craignant Dieu, donc, qui avait du respect pour le Dieu d'Israël, ils allaient au temple, qu'est-ce qui les attirait là? Dans cette religion des Juifs.
Bah, je pense que déjà, il y avait une plus grande liberté que dans certaines autres religions. Un respect, si tu veux, de la vie qu'on ne trouve pas nécessairement dans d'autres religions. Quand même, la notion de violence, la violence divine, si tu veux, dans les autres religions, c'est terrible. Un Dieu qui te respecte, un Dieu qui prend soin de toi, un Dieu qui est bienveillant, ça ne va que si toi-même, tu as une certaine vénération. Et encore, tu n'es pas sûr que ce Dieu va vraiment faire ce que tu veux qu'il fasse. Tandis que dans le judaïsme, on ne rencontre pas cette crainte de Dieu-là, cette espèce de superstition liée à Dieu. Donc plus grande liberté, je pense, plus grande éthique aussi. Le respect de la vie, c'était des choses terriblement importantes. Alors, un certain nombre de ces craignants de Dieu, il ne faut pas l'oublier, c'était aussi des esclaves. Ou en tout cas d'anciens, des affranchis, si ce n'était pas des esclaves encore, parmi les craignants de Dieu.
Est-ce que l'idée du Créateur aussi ne rapproche pas un peu plus que ce Dieu extraordinaire, lointain?
Exactement. Quand tu lis la mythologie, c'est quand même... C'est drôle de Dieu, quoi. Donc là, on a un Dieu cohérent dans le Dieu du judaïsme. Et en plus, un Dieu caché, un Dieu qui ne se montre pas, qui, tu vois, quelque chose de très différent de ce qu'on a dans les autres religions, où tous les dieux sont représentés. Il n'y en a pas un qui ne soit pas représenté. Et quand il n'y en a pas, c'est le cas d'Athènes, donc quand on va arriver à Athènes bientôt, on dit que c'est un Dieu inconnu. Donc ça reste un Dieu à vénérer par crainte, mais pas le Dieu unique, le Dieu créateur, comme tu dis, le Dieu d'Israël. Donc je pense qu'il devait y avoir un certain nombre de choses passionnantes. Par exemple, je vais prendre un exemple concret, mais on peste quand on lit la loi, notamment dans Lévitique, quand on lit certains comportements, alors la femme a ses règles, alors pendant 7 jours elle est impure, elle doit aller se laver, patati patata, elle peut reprendre sa place dans la société. Mais en attendant, des travaux médicaux ont montré que le fait de ne pas avoir de rapports conjugaux pendant au moins 7 à 8 jours après les règles, ça permet d'éviter un certain nombre de cancers, notamment de l'utérus. C'est des statistiques officielles modernes qui le montrent. Donc on pourrait se dire que peut-être dans l'éthique de l'Ancien Testament, un certain nombre de choses étaient positives pour ceux qui étaient d'origine païenne, parce qu'il y a un plus grand respect de l'autre, finalement. Puisque tu sais qu'un homme, enfin, c'est malheureux à dire, mais un homme qui n'est pas tout à fait transformé par le Christ... peut imaginer que sa femme, c'est sa propriété, que quand lui a envie, l'autre doit avoir envie. Eh bien, là, on te dit non. Dans la loi, on te dit, c'est pas comme ça que ça roule.
Tu dois attendre, mon vieux, tu dois prendre la patience. Tu peux aimer ta femme, mais aussi pendant ces jours, ne pas la toucher. Et pour que ce soit bien clair, je te dis qu'elle est impure. Alors ça, c'est un peu dangereux quand même. Puisqu'on ne pouvait pas toucher des morts, on ne peut pas toucher sa femme qui a ses règles, etc. Et si on le fait, on doit aller au temple, courir, offrir un sacrifice. Oui, il y a de quoi réfléchir quand même. Et donc on apprend, on peut comprendre des lois comme étant négatives, et en même temps, elles sont extrêmement positives, parce qu'elles apprennent à respecter la vie, et à respecter l'autre dans son identité, dans son genre, dans sa fonction. Et c'est vrai, c'était vrai pour les femmes, c'est vrai pour les animaux. Relisez les textes de loi, notamment dans Lévitique. C'est incroyable que la religion, enfin, si on peut appeler ça une religion, le judaïsme ait décrété des règles sur la manière de traiter ces animaux. Et tu ne peux pas le faire travailler le jour du Shabbat non plus. Après tout, tu pourrais très bien lui dire « Mou mon grain, moi je ne m'en occupe pas, je suis clean devant la loi ». Mais non, même ça, tu ne pouvais pas. Tu ne peux pas faire tourner ton bœuf autour de sa meule pendant le jour du Shabbat. Il doit se reposer. Ben quand on voit le bazar aujourd'hui au niveau de l'industrie agroalimentaire et du traitement des animaux, ça fait réfléchir. Finalement, la loi, elle était peut-être bonne. Elle défend les intérêts de la vie.
Oui, c'est comme la terre aussi qu'on vient faire. Beaucoup.
Et moi, je pense que ça, ça a dû jouer pour des non-juifs. Le judaïsme devait être une attirance. Et comme je le répète, pour les femmes, d'autant plus. Parce qu'elles elles acquéraient des droits qu'elles n'avaient pas dans leur propre culture ou religion. Oui, tu ne dois pas considérer l'impureté comme une tare, mais comme une protection, finalement.
C'est parce que ça
bah, pourquoi ? Oui, mais attends.
Ça, c'est l'alliance de l'humain. Hein. Je dis
attends.
C'est pas la bonne raison à la base. Mais c'est quand
la, la raison est simple. Toute perte de sang est problématique, puisque le sang, c'est la vie pour le judaïsme. Donc, si quelqu'un, même un homme, perd du sang, ce qui peut arriver, une hémorragie, peu importe, ben, t'es considéré comme impur. Parce que tu perds de la vie. Et donc, on espère ta guérison. Et on espère que tu feras tout ce qu'il faut pour te purifier, une fois que tu es guéri, pour reprendre ta place dans la, tu vois, dans la société. Non, il n'y avait rien de péjoratif là derrière. C'est nous qui le lisons avec nos yeux de moderne, évidemment, en disant bah, « ça c'est dégueulasse quand même ». Mais non. Tout est une question, dans le judaïsme, de distance, en fait. Je ne sais pas si je peux bien me faire comprendre. Mais je... Comme par exemple, dans la création, on crée l'homme et la femme. Il y a une séparation des sexes. Et cette séparation, elle est voulue, elle est créative. Elle permet justement le vis-à-vis et le face-à-face. Après tout, il aurait très bien pu créer des androgynes, hein, pourquoi pas. D'ailleurs, si tu vas au bout du judaïsme, c'est ce qu'on pense. Hein. Beaucoup de rabbins défendent que le premier Adam, c'était un androgyne. C'est seulement après coup qu'il est divisé, on lui prend une partie de lui-même pour faire du féminin. Voilà, on peut être littéral, hein. Moi, j'ai pas de souci. D'ailleurs, je m'en fous.
Voilà.
Après, la réalité, c'est qu'on est bien homme et femme aujourd'hui.
Et concernant le pur et l'impur, j'ai été à un cycle de cours au séminaire sur les psaumes, et c'était le prieur de la bénédictin de Wavremont qui enseignait, et il parlait que pour les juifs, pur, ça voulait dire transparent, et impur, opaque, que ça n'avait pas du tout de connotation sexuelle, ni morale. Et je trouve que ça éclaire, quoi. Et on comprend d'autant mieux, les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. Il y a des prostituées qui sont droites, qui sont vraies, et des personnes qui communient tous les jours et qui sont
légèrement hypocrites.
Et pas hypocrites, quoi. Moi, ça m'a impressionné, quoi. Pur, c'est transparent, et impur, c'est opaque.
Ok. Une petite dernière pour la route.
Moi, je voulais juste vous dire que je suis toujours impressionné, là, dans notre étude des actes, par la persévérance de ces hommes. Alors, Paul, Silas, Timothée, etc. Persévérance dans l'épreuve. J'ai presque l'impression qu'ils savent à l'avance qu'ils vont se faire taper sur les doigts, que ça ne va pas être OK, mais ils continuent. Ils continuent. Et moi, je trouve que c'est un remarquable encouragement pour nous tous face à la situation vers laquelle s'oriente le monde ces derniers temps, de se dire, bah oui, nous aussi, on doit persévérer, ça ne va pas être facile ce qui nous tombe dessus, que ce soit économiquement, politiquement, socialement, religieusement, voilà. Mais prenons sur nous, en témoin de Jésus, voilà, qu'est-ce qu'on a comme témoignage à apporter dans un monde de plus en plus difficile, troublé par toutes sortes de bruits, d'annonces, du jour au lendemain. Voilà, tu as un peu l'impression que tout va s'écrouler. Et je crains que pour les gens qui n'ont pas un fondement, une assise, ce soit très difficile à encaisser. Parce qu'on a quand même, on leur a dit, plus jamais ça, quoi. Hein. On n'aura plus jamais de problème, l'Europe. Puis finalement, on se rend compte qu'on va tous prendre le bouillon. Alors ceux qui ont un petit peu d'assises, ouais, qui savent qu'ils ne vivent pas pour ça, qui vivent pour quelqu'un, à mon avis, ça va aider quand même un peu. Mmh. Et pour peu que l'Église se serre les coudes, resserre les rangs et devienne active dans la justice sociale qu'il va falloir mettre en route, je pense que l'Évangile aura toute sa place. Sauf si nous le désespérons nous-mêmes, si nous nous laissons anéantir par les mauvaises nouvelles, et surtout le n'importe quoi. Parce que là, ça y va.